les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.
May it be an evening star.
Culture et patrimoine, une émission présentée par Evelyne Padrino. Rejoignez-nous dans un voyage au cœur des anciennes civilisations. Alors bienvenue dans les portes de la connaissance et dans la branche d'Evelyne Padrino, puisqu'elle a une belle émission qui la concerne, culture et patrimoine. Et ma compagne a décidé de faire cette émission. Et puis vous avez vu en cours de ces dernières émissions très belles qu'elle a faites, parce qu'elle est très douée et très intelligente. Et je trouve qu'elle se fait remarquable de vous faire entendre et de vous montrer ce qu'étaient les anciennes civilisations à base mégalithique et ancienne. Et elle est très douée, donc elle va, après l'émission qu'elle a fait la semaine dernière, vous représenter un petit peu ce qu'elle a fait la semaine dernière. On le mettra en podcast bientôt parce qu'on a eu un petit problème technique la semaine dernière. On vous la mettra en podcast bientôt sur le site, bien sûr, vous verrez cette belle émission qu'elle a faite. Elle était plutôt magnifique. Et puis ensuite, on va faire la suite. Aujourd'hui, elle va vous expliquer en 5 minutes ce qu'elle a fait la semaine dernière. Puis on va faire la suite des mégalithes aujourd'hui avec Evelyne. Et vous allez voir, vous allez faire un voyage fantastique avec culture et patrimoine. Voilà. Ah, bonjour Evelyne.
Bonjour Patrice, bonjour à tous les auditeurs qui sont présents et fidèles, merci beaucoup. Et puis aussi à tous nos amis de l'association d'Hypatie que je salue, que je sais qu'ils sont très probablement présents. Voilà, donc merci à Radio O2 de nous laisser cette opportunité de voyage dans le temps. On cherche à voyager dans le temps et bien déjà, par tout ce que nous pouvons partager, et bien nous pouvons comme ça ouvrir des portes dimensionnelles et explorer le temps. Et bien effectivement, la semaine dernière, nous avons déjà commencé un voyage lors de la précédente émission où j'ai proposé des généralités et les fonctions de certains monuments donc des peuples des mégalithes tels que les menhirs, les dolmens et les pierres mégalithiques. Voilà, donc j'ai proposé également de découvrir par un tour du monde particulier des anciens peuples des mégalithes qui nous ont laissé des vestiges exceptionnels, tels qu'en Corée du Sud, où lorsque vous pourrez reprendre l'émission, vous verrez que la Corée du Sud est quand même le premier pays où les mégalithes, on trouve d'innombrables mégalithes. Et puis ensuite, nous sommes partis découvrir donc les pierres érigées phalliques de l'Éthiopie et aussi leur similitude avec certaines pierres gravées d'épées et de poignards particuliers et des personnages aussi et des pierres phalliques que nous avons donc sur la Corse. Ces pierres-là m'ont vraiment choqué. Les pierres d'Éthiopie m'ont choqué parce que lorsque j'ai découvert ce site, j'ai tout de suite fait la relation avec la Corse et il y a quand même quelque chose à y comprendre, je ne sais pas.
Alors, c'est une question, Evelyne. Oui. Pierre phallique, pourquoi pierre phallique ?
Alors, les pierres phalliques, en fait, c'est parce que ce sont des pierres en forme de phallus, c'est-à-dire ce sont des pierres qui étaient en rapport avec le masculin de la fécondité, le patriarcat, puisque les hommes avaient le pouvoir à cette époque-là, donc à une période du néolithique. où l'homme va montrer sa puissance et sa supériorité et pointe vers le ciel ces pierres érigées phalliques avec ces symboles-là. Et c'est aussi un trait d'union entre la terre et le ciel, et planté dans la terre mère, donc, et qui représentait l'union sacrée entre la fertilité féminine de la terre, et qui aussi était les abondances des cultures, etc. Et puis, donc, le magique et le royaume des divinités dans les cieux. Voilà, donc il y a tout ce voyage à découvrir également. Et puis ensuite, nous sommes partis sur Madagascar avec les pierres Vatolaï qui honorent la mémoire de grands personnages disparus, bien sûr, aujourd'hui, depuis le néolithique, soit des guerriers, soit des prêtres, soit des chefs de tribus particuliers. Donc ces pierres-là étaient sculptées de visages, disons, d'hommes particuliers choisis pour justement une commémoration de mémoire. Mais par contre, elles n'étaient pas érigées sur des tombeaux, sur des sépultures. Ce sont simplement des cénotaphes, c'est-à-dire des pierres commémoratives. Sous chaque pierre, aucun archéologue n'a découvert d'ossements, mais elles ont aussi ce rôle envers la fertilité. Aujourd'hui encore, à Madagascar, il n'est pas rare de voir donc ces pierres érigées en mémoire de hauts personnages, de personnes qui ont marqué l'histoire de leur village ou l'histoire de ce pays. Et on dit également que les femmes qui souhaitent avoir un bébé viennent y jeter encore aujourd'hui des petits cailloux par-dessus ces pierres pour espérer une maternité prochaine. Vous voyez comme quoi les cultures et les rites ancestraux ont parfois perduré et que l'on retrouve encore aujourd'hui dans certaines populations. Voilà, et bien aujourd'hui je vous propose donc de partir et d'ouvrir la porte vers ce voyage dimensionnel. Partons aujourd'hui sur l'Égypte. Eh bien oui, en Égypte également. L'Égypte possède également des pierres levées disposées en cercle concentrique sur le site de Nabta Playa, à l'ouest d'Abou Simbel. Ce sont des cercles de pierres qui sont représentés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile d'aller visiter ce site, mais en tout cas, il y a également des petits dolmens de type sépulcral, c'est-à-dire avec des ossements qui ont été découverts, donc à visée funéraire. Et qui sont par contre clos sur les quatre faces. Ça, c'est rare, parce qu'en général, les dolmens sont clos sur trois faces, c'est-à-dire, ou deux faces, avec des orthostates sur lesquels reposent les dalles de couverture. Et parfois, à l'arrière, donc, on trouve la dalle qui ferme donc cet ensemble. Et bien là, elles sont fermées sur les quatre faces. Ils sont recouverts d'une dalle de couverture, de ciste, et dont situé bien sûr sur les quatre points cardinaux, puisque c'est un cercle, et au sud-est du Caire. Alors, vous avez un autre site également, sur le site de Wadi El Ti. Alors, ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre des notes aussi des différents sites pour pouvoir après tranquillement vous découvrir sur le net ces différents sites. Et également, vous branchez carrément sur votre moteur de recherche et puis chercher en même temps pour avoir les images pour pouvoir suivre un petit peu tout ce que je vous présente. Voilà, donc là, nous sommes sur le site de Wadi El Ti, W-A-D-I, plus loin E-L-T-I-H. Qui a été découvert en 1925, où on découvre d'ailleurs ces dolmens. Donc après, le professeur Beauvier-Lapierre découvrit d'autres dolmens sur le site de Fayoum, sur les collines du nord du lac Karoun, tous datés de la seconde période dolménique, c'est-à-dire de l'âge de la pierre polie. Plus tard, bien sûr, tout ce qui a un rapport avec ces mégalithes érigés à la gloire d'anciennes divinités ou d'anciens personnages ou de moments particuliers, ou parfois qui vont servir de calendrier pour pouvoir, par l'ombre de ces monuments, de ces pierres levées, pouvoir savoir à quelle période nous sommes, à quelle saison, si on est sur les solstices, les équinoxes, etc. C'était aussi des gnomons et des horloges solaires pour certaines fonctionnalités. Et plus tard, eh bien, on verra donc ces pierres-là remplacées par des obélisques. Voilà, c'est tout à fait logique. Et puis, bien sûr, avec des fonctionnalités un peu similaires. Voilà, donc ces cercles de pierre avec une grande pierre centrale sont aussi nommés des cairns. Et elles ont de multiples fonctions. Il faudra qu'un jour je fasse une émission là-dessus parce qu'il y a trop à dire. Et là, on n'aura pas le temps aujourd'hui pour explorer tout ce que les cairns pouvaient apporter. Bien, maintenant, partons vers l'Indonésie. Je vous propose de découvrir la vallée de Bada en Sulawesi. Des stèles de pierre avec des personnages de type guerrier, avec des casques, des sortes de casques comme des cosmonautes, et avec leurs mains sur l'abdomen ont été découverts, ainsi que sur le site de Pokekia, qui sont des mégalithes de Kalamba. Alors Pokekia, P-O-K-E-K-I-A, ou site donc les mégalithes de Kalamba, comme ça se prononce, ou des jarres ou urnes de pierre funéraire avec des couvercles sculptés et des ossements et des dents y ont été découverts. Voilà, ce sont des sortes d'urnes funéraires, un peu de pierre, hein, qui sont sculptées quelquefois et qui ont servi comme cela à y déposer, à inhumer plusieurs corps dans sur parfois plusieurs périodes de l'histoire. Des bandes décorent certaines de ces jarres avec des visages érodés ou des singes sculptés par rapport à leurs croyances de l'époque et aux animaux qui les entouraient. Voilà. En Sulawesi, à Waruga, W-A-R-U-G-A, des sarcophages de roches sont à découvrir, également comme des sortes de cuves funéraires, mais plus rectangulaires, pouvant contenir 12 personnes surmontées de stèles de pierre avec des décors sculptés, des personnages et les stries bien sûr qui étaient en relation avec le nombre de corps inhumés. En général, quand vous voyez des stries en bâton, à ces époques-là, c'était souvent pour faire des calculs, pour pouvoir situer combien il y a de personnes à l'intérieur ou une relation de calcul en tout cas. Pour, par exemple, sur les céréales, combien ils ont pu exploiter, de ramasser plutôt de kilos ou des choses comme ça. Tout était comptabilisé par des écritures en bâton comme ceci. Voilà. Donc maintenant, nous partons pour la Micronésie sur un site qui m'a toujours passionné, qui est extraordinaire, et c'est le site de Nan Madol. Certains doivent connaître ce site qui est très connu et qui interroge beaucoup de chercheurs et la plupart des personnes qui s'y attardent, parce que c'est vraiment un site exceptionnel. Donc il est situé sur la partie est-sud de l'île de Pohnpei. Il étonne les rares touristes qui ont la chance de fouler ces rivages bien lointains et grisâtres, constitués par des blocs de roches de cylindres rectangulaires basaltiques, très particuliers. Ça confère à ce site une atmosphère très particulière parce que tout est gris, sombre, noir, vous voyez, c'est assez particulier. Donc ils ont été entassés par la main des hommes qui bâtirent cet îlot artificiel. Une prouesse exceptionnelle, surtout à des époques très reculées, où les ruelles et les canaux ont permis de la nommer la Venise du Pacifique. Donc il y avait des canaux particuliers pour que les bateaux, les pirogues, tout cela, puissent naviguer et partir de traverser de l'océan à cette cité qui était une cité très développée à un moment donné et un des comptoirs commerciaux, du poisson, de plein de choses autour de ces îlots de Micronésie. Nan Madol fut le siège d'une dynastie des Sceaux de l'Heure. Donc les Sceaux de l'Heure a été une dynastie où cette cité a été à son apogée. Dès qu'elle a été reconstituée et récupérée par ces Sceaux de l'Heure dont je vais prochainement vous expliquer la légende, eh bien, il s'y trouvait 25 000 personnes qui y vivaient. C'était quand même extrêmement développé. Donc, plusieurs théories circulent Ah oui, sur la datation et les fondations minérales de ce site, liées à un peuplement encore bien plus ancien. Alors voilà, en fait, les sceaux de l'Eure n'étaient pas les premiers qui sont arrivés sur cette cité. Auparavant, il y avait déjà des personnes, des peuplements mégalithiques qui s'y sont installés et qui ont commencé certaines constructions. Mais on dit que c'est vraiment la dynastie des sceaux de l'Eure, dont de l'Eure émane de l'ancien nom de l'île, et qui signifie « grand ». Voilà, donc vous voyez, cette population particulière est arrivée et a aidé ce peuple à développer leur cité. Donc en effet, ces hommes seraient venus dans de grands bateaux, originaires de la mystérieuse terre de Kato, une terre inconnue encore aujourd'hui, où certains chercheurs posent des théories mais qu'on n'est sûr de rien. Ils seraient venus de très loin, en tout cas avec leurs bateaux, afin d'apporter leurs connaissances à la population ancestrale qui vivait déjà sur cette terre-là. Plus particulièrement, il y a une légende qui m'a touchée, celle de deux jumeaux censés être capables, d'après la légende, de faire léviter ces cylindres rectangulaires depuis leur site d'extraction jusqu'au chantier. Et ces deux jumeaux auraient été aidés d'un dragon volant au service du dieu de l'agriculture et de la nature, Nansison Sapu, dont ils élaborèrent un autel de basalte en son honneur, afin bien sûr de le remercier de son aide. Tout ça, c'est une légende, mais c'est quand même interpellant. Un des frères épousa une princesse autochtone et fonda le clan Dipwiwilap, qui signifie le grand peuple. Il régna en maître sur l'île de la cité. Ses savoirs permettant la lévitation des pierres ont été rapportés dans de différentes cultures et civilisations. Mais ce qui m'a interpellée également, et peut-être vous connaissez cette histoire, je trouve que là, elle se prête à être expliquée et racontée, c'est aussi l'histoire de Letton Edward Lidskaldin, qui était originaire de Lettonie et qui, en 1920, conçut le fabuleux château de Corail en Floride. Notez bien ce site et également allez le découvrir. C'est un site qui a été l'œuvre de sa vie. Cet homme-là est parti de sa Lettonie natale pour prendre un bateau et venir s'installer en Amérique, donc en Floride. Il y laissa bien sûr son cœur, il laissa une personne qu'il aimait très profondément. C'était vraiment pour lui un grand amour qu'il laissa en sa terre natale et dont il espéra sa venue toute sa vie. Mais malheureusement, la belle ne vint pas. Cette œuvre fut réalisée afin qu'elle puisse savoir qu'elle en fut l'instigatrice et l'inspiratrice. Lidskaldin, qui pesait à peine 40 kilos pour 1,50 m, aurait travaillé tout seul et essentiellement la nuit, à l'abri des regards. Avec quelle lumière, on ne sait pas. Selon le site officiel du château, le mystère reste entier quant à la technique qu'il utilisa pour découper, déplacer, sculpter et positionner les blocs de pierre dont certains pèsent jusqu'à 30 000 kilos. C'est quand même énorme. Dont une porte qui pèse 9 tonnes. Comment un homme de ce gabarit aurait pu soulever effectivement des blocs de pierre allant jusqu'à 9 tonnes. Le seul outil dont l'utilisation serait connue avec certitude est une grue, une petite grue en bois. Comme on en trouve bien sûr chez les anciens Égyptiens, et dont il a toujours assuré s'être inspiré de la technique des anciens bâtisseurs égyptiens. Donc c'est quand même interpellant. Il aurait été un grand initié, donc, et ainsi que la magie, voilà, il aurait été un grand initié de cette magie de la lévitation des pierres, comme on nous parle dans certaines légendes également de Nanmadol, qui provenait justement de la population des peuples de l'ancienne Égypte. Donc de ses savoirs oubliés que lui aurait à nouveau eu en sa connaissance. Cet homme-là aurait donc conçu ce site de cette manière. Donc après à prendre donc au conditionnel, mais en tout cas c'est interpellant. Donc, effectivement, de nombreux chercheurs auraient indiqué que dans certains textes anciens qui auraient été, par certains, rédigés par le fameux dieu lunaire Thoth, le secrétaire des dieux, l'architecte et enseignant de toutes les sciences de l'ancienne Égypte, participant au rite de passage des défunts, et la fameuse pesée du cœur, qui aurait livré également le livre des morts et bien d'autres. Donc, est-ce que, effectivement, cet homme-là aurait eu ces connaissances-là? En tout cas, cette légende de Nanmadol sonna comme un écho sur la plupart des îles du Pacifique. Et moi, ce qui m'a interpellée également, c'est la similitude entre la légende fondatrice de cette grande cité de Nanmadol et celle que l'on découvre également sur la cité de Chan Chan au Pérou. Et pourtant, combien de kilomètres séparent ces deux civilisations et ces deux cités ? Chan Chan sur les rives donc du Pérou et puis donc Nanmadol sur une île de l'archipel de Micronésie. Vous voyez comme c'est curieux. Eh bien, donc à Chan Chan, on y raconte que des dieux auraient abordé la côte péruvienne en bateau, auraient enseigné leur savoir aux Chimous, ancienne, très ancienne population qui vivait sur ces rives, et qui les transmirent plus tard aux Incas à travers l'histoire. Mais aussi que deux frères jumeaux auraient rapporté de la côte pacifique un bébé dragon, attendri par ce petit être qui aurait donc descendu du bateau de ces fameux dieux à leur suite. C'est donc ces deux enfants auraient rapporté ce petit dragon et l'auraient élevé et l'auraient fait grandir dans leur village. Mais, arrivé à l'âge adulte, celui-ci causa bien des tourments. Il saccagea la cité, il cassait tout sur son passage, déjà par son envergure, puisque bon, un dragon, c'était apparemment un être légendaire, mais quand même un être qui aurait eu une certaine prestance. Donc le chef alla les trouver et leur demanda de ramener cet animal là où il l'aurait trouvé et de l'y abandonner parce que c'était plus possible. Les gens se faisaient écraser, ils ne le faisaient pas vraiment exprès, mais bon, il y avait des morts, il y avait des bâtiments qui étaient fracassés, donc ils ne pouvaient plus supporter de vivre avec ce dragon. Malgré la tristesse des deux frères, ils durent obtempérer. Et les voilà donc partis sur le bord de cette côte du Pacifique pour ramener le dragon à l'âge, par exemple, adolescent, vous voyez. Donc il le ramène là-bas et se cache et l'abandonne donc à cet endroit de la plage. Mais le dragon, se sentant trahi, blessé, peiné, cria pendant toute une nuit et retrouva le chemin de la cité. Il revint et d'une féroce colère et tenta de détruire la cité. Là, on nous conte cela, c'est quand même étonnant. Et donc les habitants de Chan Chan durent se réfugier dans une grotte d'une grande montagne blanche, la montagne de Séro, qui les aurait ainsi protégés jusqu'à ce que le dragon prît son envol et parte, en fait. Voilà, alors il y a toute une histoire qui quand même est interpellante, puisqu'on retrouve des similitudes avec celle de Nanmadol. Bon, bien sûr, un peu plus négative à Chan Chan et un peu plus positive sur Nanmadol, mais quand même, on a des points qui sont intrigants. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par l'article que j'ai écrit justement sur la version, sur les recherches et puis aussi sur l'histoire et les légendes de Chan Chan, donc cet article est paru dans une revue, la revue Génération Cité d'Or, où des chercheurs indépendants y publient leurs travaux et que vous pouvez découvrir donc sur Internet et vous y abonner et recevoir le magazine directement ou des numéros du magazine directement par mail ou par votre boîte aux lettres. Voilà, donc c'est le magazine Génération Cité d'Or.
On va bientôt faire une petite pause, Evelyne. Je te laisse continuer, puis après on va mettre un peu de musique.
Oui, je vais essayer de terminer Nanmadol, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oh là, non, on va faire une pause. Donc voilà. Donc revenons-en à Nanmadol, où les architectes pensent que ces briques rectangulaires de basalte auraient été acheminées grâce à des troncs de cocotiers roulés sur terre sur plusieurs kilomètres. Bon, ça paraît aussi un petit peu... Bon, après, à discuter. Alors qu'il fut rapporté de la côte de l'île vers l'océan afin de créer cette cité et ses canaux navigables. Voilà, donc la création des fondations de cette cité nous rappelle également le génie des constructeurs de l'île del Sol et des 89 îles flottantes d'Uros du lac Titicaca au Pérou et en Bolivie, selon comment on se place, soit par la Bolivie, soit par le Pérou, on y accède. Elles furent tressées de roseaux, elles, par contre, et non de briques de pierre. Mais bon, enfin, et c'est quand même une prouesse technique extraordinaire de créer des îles tressées de roseaux, dont le nom local de ces roseaux serait le Totora, et tout cela par la main de ces hommes de génie. Le site de Nan Madol serait daté pour certains chercheurs du néolithique, car de nombreuses structures mégalithiques s'y trouvaient déjà et dateraient depuis les débuts du siècle, tels que le suggèrent certains archéologues, et d'autres des temps bien plus ancestraux que cela. Donc après, c'est un sujet qui divise, c'est assez compliqué, chacun y fera ses conclusions. Pour les habitants des îlots environnants, la cité remonterait bien sûr à la nuit des temps. Pour eux, c'est une évidence. Elle serait aujourd'hui considérée comme maudite par ceux qui vivent autour, parce que très peu de guides veulent s'y aventurer. En général, quand des touristes demandent d'aller visiter Nan Madol, ils tordent du nez, ils ne veulent pas. Ils disent, écoutez, on va vous approcher, mais nous, on n'ira pas. On ne descendra pas sur cette cité. Alors bon, c'est assez mystérieux. Pour certains, et alors surtout si c'est à la tombée de la nuit, alors là, il ne faut pas compter sur eux. Hein, parce que pour certains, il s'y passe des phénomènes paranormaux. Ils auraient vu des lumières mystérieuses, des feux, des fumées provenant de la cité et qui troublèrent les voisins, donc des îlots avoisinants. Alors donc, y aurait-il encore des rites et des cultes observés par certains initiés, à savoir à certaines dates, à certains moments clés, comme les équinoxes, les solstices, les pleines lunes, etc. Ou est-ce une légende afin de fasciner les touristes en mal de témoignages étranges? Je vous laisse faire vos propres conclusions.
Merci Evelyne. Parfait. Mais de toute façon, juste une petite parenthèse. C'est vrai que les anciennes civilisations portent, comme vous l'avez vu quand j'avais fait des émissions, des mystères. Ces mystères, c'est qu'est-ce qui leur a permis justement de construire ce qu'ils ont construit avec des blocs qui dépassent l'entendement, puisque ces pierres pesaient plusieurs centaines de tonnes pour la plupart, étaient érigées comme les colosses par exemple ont été érigés, qui pesaient extrêmement lourd. Comment voulez-vous que des anciennes civilisations aient eu des moyens de construire et d'ériger à des blocs de pierre, de les transporter à plusieurs centaines de kilomètres, même si la région n'était pas tout à fait sous le même, je dirais, sous la même température, puisque le climat n'était pas le même. On se demande bien comment on pouvait faire. Donc la question reste et se pose. Posons-nous la question de savoir éventuellement s'ils n'avaient pas autre chose que des maillets en pierre, des burins en cuivre et des cordes en chanvre pour pouvoir ériger ces structures qui étaient gigantesques. Et posons-nous la question de savoir qu'est-ce que sont venus faire ces peuples, comme Nol Banol par exemple, pourquoi ils ont érigé ça, dans quel but, et comme sur l'île de Pâques par exemple, on se pose beaucoup de questions, savoir pourquoi justement ils ont été érigés face à la mer et d'autres face à l'intérieur des terres, alors que justement ces peuples étaient justement des peuples qui venaient soi-disant d'une île très loin, à 100 km de l'île où ils ont érigé ces pierres, et ce seraient des paysans qui auraient décidé d'aller sur cette île pour construire des monuments, des pierres qui étaient érigées dans ce sens. Donc on se pose vraiment la question de savoir pourquoi, et il y a plein de mystères autour des anciennes civilisations, c'est pour ça que je dis... La remise en question est importante et sur le plan scientifique, il y a des choses qui sont, je dirais, dites, qui sont véridiques et d'autres qui sont à remettre en question. Et posons-nous les bonnes questions avec des gens qui cherchent justement sur ce terrain pour savoir où sont les origines justement de ces constructions et pourquoi elles ont été érigées. Voilà, on va faire une pause musicale et après je donne la parole à Evelyne. Elle va revenir en nous faisant voyager dans les anciennes civilisations. Voilà, alors on a fait un beau voyage, vous avez reconnu une musique du Pérou, bien sûr. Ça fait partie des anciennes civilisations. Hein, donc, c'est un très beau voyage parce que, en fait, on voyage au cœur de ce qui a été autrefois quelque chose d'important. Et je crois qu'il est important de dire aux gens et aux auditeurs qui nous écoutent et qui écouteront cette émission et qui écoutent les émissions sur les anciennes civilisations, qu'un mystère plane sur ces anciennes civilisations et qu'on ne peut pas comprendre ou essayer de connaître les anciennes civilisations sans aller chercher au plus profond de savoir ce qui s'est passé autrefois. Les théories sont diverses, il y en a plein, il y a plein de théories différentes, effectivement, mais il y a la théorie qui plane, qui dit que tout était fait par les hommes, mais je crois qu'il y a un plus grand mystère derrière et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus spirituel comme des civilisations qui seraient venues nous visiter éventuellement. C'est une, disons, une partie de ce qui pourrait être dit. Et je crois que c'est très important de dire que des mystères qui planent, il faut aller creuser et faire confiance à des gens, des personnes qui ont envie de comprendre la vérité et d'aller chercher autre chose que la version standard, sans critiquer la version standard, parce qu'elle existe. Et il y a des gens qui font du travail formidable, mais il faut aussi aller voir un peu plus loin. Et je pense que quand on aura trouvé ce qui s'est réellement passé, on sera très véritablement surpris parce qu'il y a des choses extraordinaires à dire. Voilà, je laisse maintenant la parole à ma compagne Evelyne. Et je crois qu'elle va vous transporter encore vers les mystères des anciennes civilisations. C'est à toi, Evelyne.
Merci, Patrice, et également pour ces précisions d'importance qui soulignent également pour moi le génie technologique et logistique à ces époques reculées de nos anciens. Bien sûr, pour moi, il n'y a pas de doute, il y a eu certainement d'autres moyens qui ont dû être développés avec le génie de leur époque et avec ce dont ils disposaient et qui ne sont pas forcément parvenus jusqu'à nous aujourd'hui, mais à mon avis, bien entendu, qu'ils avaient développé d'autres moyens techniques pour pouvoir ériger des monuments magnifiques tels qu'on en découvre un peu partout sur la Terre. Voilà. En tout cas, eh bien, partons à nouveau et embarquons vers l'Indonésie maintenant, sur le site de Ramayana, qui est proche de la Micronésie. Nous continuons dans ces îles du Pacifique, donc pour découvrir l'île de Sumatra, qui fut nommée l'île de l'or pour sa richesse et tout le commerce important entre les tribus des forêts et les pays bouddhistes. Pour certains archéologues, ce site serait daté du 8e siècle, pour d'autres chercheurs bien plus anciens. Il s'y trouve 1025 mégalithes en tout. Des traces donc de ces passés ancestraux y sont recensées sur 44 sites, ce qui en fait quand même le troisième ensemble au monde. Vous voyez qu'il n'y a pas que la Bretagne et la France, mais la Corée du Sud a le chapeau, et puis derrière donc on trouve l'Indonésie avec Sumatra. Et pourtant Dieu sait que des kilomètres et des kilomètres nous séparent donc de ces lieux extraordinaires. Donc des menhirs, des dolmens, des tumulus surmontés de terre, orientés sur la course du soleil, face bien sûr aux constellations sacrées, des autels et des pierres anciennement érigées et aujourd'hui couchées. On découvre également des vasques, des pierres à cupules très similaires à celles que l'on découvre dans nos régions et qui étonnent parfois par leur forme cylindrique et leur gravure comme celle qui a été découverte dans la région de Kerinci, K-E-R-I-N-C-I, en pleine forêt, avec à sa base un personnage avec une tête longue ovoïde, je dis bien une tête longue et pas une tête allongée, hein, parce qu'il y a les crânes longs et crânes allongés, attention, il y a des différences. Ça aussi, il faudra qu'on fasse une émission là-dessus. Les crânes longs, on naît avec cette particularité anatomique génétique, tandis que des crânes allongés, en plaçant des morceaux de bois sur les têtes des enfants, des tout-petits, pour pouvoir modeler leur crâne et créer ainsi une ressemblance avec ces crânes longs. Voilà, donc vous voyez, la petite précision est là. Et j'ai bien dit un personnage à tête longue, ovoïde, les bras écartés et les mains levées vers le ciel. C'est assez particulier. Si vous pouvez aller le découvrir, vous verrez que cette pierre couchée est vraiment très, très particulière. Donc, on y découvre aussi des pierres sculptées zoomorphes. Alors, zoomorphes, je précise que ce sont des personnages inspirés, par exemple, de corps humains, mais avec des têtes d'animaux. Voilà, en tout cas, zoo qui a rapport avec l'animal. Où des singes et autres animaux y sont représentés. Des pierres rochers sont sculptées de personnages importants qui commémorent encore le souvenir de ces anciens, toujours dans ce but de commémorer des personnages illustres, devenus aujourd'hui des gardiens de ces sanctuaires et de ces villages oubliés. On trouve ces pierres à l'entrée des sites en général, avec ces personnages qui sont comme des sentinelles, qui gardent donc la paix et la sérénité de ces lieux sacrés. Donc, figurant les symboles, bien sûr, d'une puissance marquée d'un patriarcat, de l'homme, de la puissance de l'homme, mais aussi de la fertilité pour les cultures, pour la terre, pour tout ce que ça peut apporter dans l'abondance des ressources, la chasse, etc. Alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'on est en Indonésie, je vous le rappelle, sur l'île de Sumatra. Eh bien, dans des temps très très reculés, il existait également des chasses rituelles avec un culte important des dieux cervidés, des cerfs. Donc déjà, dans plusieurs endroits de la Terre, on retrouve ces cultes des dieux cervidés et des cerfs, comme vous le découvrirez également sur la ville de Chan Chan au Pérou, où si vous lisez mon article, vous allez voir tout ce que j'y ai mentionné, c'est troublant. Et là également, on retrouve cette similitude avec ce culte important des cerfs et bien sûr des chasses rituelles qui sont rapportées à certaines périodes, comme en nos contrées, comme l'ont fait nos ancêtres et aussi les druides, etc. Cet animal sauvage, bien sûr, un symbole solaire, de par la ramure de ces bois qui est rapportée au rayon du soleil. Voilà, donc tout un symbole de puissance de solaire qui fait référence au courage, puisque le cerf est un animal aussi fier et majestueux par ses cornes, mais aussi un grand courageux et qui vivait bien sûr dans les forêts environnantes. Des sarcophages de pierres monolithes qui sont étrangement interpellantes puisqu'elles rappellent celles que nous découvrons et qui siègent en nos sites archéologiques en France et dans notre région. Des statues silencieuses sont fréquemment orientées vers des rivières, des sources pour les cultes des eaux probables, bien sûr, puisque les eaux étaient sacrées à ces époques-là, elles émanaient du royaume des dieux, comme je l'ai dit dans l'émission précédente. Donc tout ce qui tombait du royaume des dieux était sacré pour les hommes. Ils s'en servaient pour des rituels, pour des baptêmes, pour plein de choses, pour guérir, soigner, enfin voilà. C'est quand même, le culte des eaux aujourd'hui est avéré. Donc, ces statues étaient donc orientées vers les rivières, les sources, mais aussi les collines sacrées. Tout ce qui était dôme, tout ce qui était un petit peu plus élevé, étaient des lieux qui étaient propices présenter des temples, à y construire des temples, des hôtels, puisque bien sûr c'est élevé et ça va toucher le royaume des dieux davantage, quoi. C'est mieux situé. Voilà, donc plus près des cieux, du royaume des divinités ancestrales. Leurs visages diffèrent des populations actuelles. Ça, c'est vraiment étonnant. Les visages qui étaient gravés sur ces statues, sculptés sur ces statues, présentaient des différences anatomiques très particulières. Leurs caractéristiques tendent davantage vers un type afro-africain, avec des nez épatés, des lèvres épaisses et des yeux assez en relief. On pourrait croire qu'ils étaient avec des gros yeux exorbités. Voilà, donc vous verrez ça, c'est assez particulier. Sur le site de Tegurwangi, Tegurwangi, quatre statues portent leur regard sur les quatre points cardinaux, sur bien sûr aussi les quatre éléments suggérés et liés. Ils seraient également des gardiens solennels de défunts inhumés sous les dolmens à l'arrière. Donc vous voyez, ils étaient là pour aussi garder et aussi commémorer ces personnages qui sont inhumés sous les dolmens environnants. Sur le site de Tanjung Aru. Alors T-A-N-J-U-N-G, plus loin A-R-U. Un rocher est entièrement sculpté, présentant un homme qui semble attaqué par un serpent, comme pour intimer une menace au quelconque pilleur ou semeur de troubles dans cet espace funéraire sacré qui viendrait bien sûr perturber le repos, la paix et la sérénité qui règnent depuis des siècles. C'est assez étonnant, comme si c'était un peu une malédiction pour dire si vous venez troubler cet endroit sacré, eh bien sachez que vous devrez vous combattre contre des démons, entre guillemets, et le serpent qui garde ses lieux. Parce que le symbole du serpent est un symbole très intéressant dans les anciennes civilisations. C'était un gardien des souterrains, c'était un gardien des lieux, des trésors cachés, des connaissances cachées souterraines, mais aussi des sépultures, des tombeaux, afin que la paix et la sérénité règnent en ces lieux. Donc voyez les messages que l'on peut comprendre à travers les symboliques donc qui sont inscrites et gravées de ces héritages du patrimoine fabuleux. Voilà, donc maintenant nous allons partir sur le Japon. Alors, l'énigmatique monolithe de Sakafune Ishin. Alors, Sakafune, S-A-K-A-F-U-N-E, plus loin I, plus loin S-H-I-N. C'est un gros rocher de taille taillé, un gros rocher taillé, présentant une cuvette circulaire qui suggère la tête, reliée par un sillon droit aux rigoles vers le corps et pour aussi vers un ovale creusé qui se termine par le sillon des jambes où coule l'eau sur la pierre, puis des sillons latéraux pour les bras, vers les demi-cercles pour les mains. Voilà, c'est une pierre très particulière. Quand vous la verrez, vous allez voir que, en fait, vous y voyez comme un corps représenté avec des sortes de trous, de cupules, de petits bassins, en fait, où on comprend tout à fait qu'il y a eu, bien sûr, un culte des eaux particulier. On y faisait couler des eaux sacrées. Pourquoi ? On ne sait pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est stupéfiant. Le culte évident des eaux de pluie et des eaux de source semble ici évident, comme c'est le cas chez nous aussi en Gironde, où on le découvre en la pierre du bois de Picampo de Lussac, où des sillons ramènent les eaux sacrées vers une cuvette en forme de triangle pubien, pointant bas bien sûr, pour suggérer l'utérus, la matrice de la déesse mère, le féminin sacré, les cultes de la fertilité et autres rites énergétiques ancestraux que nous ne comprenons pas toujours aujourd'hui.
Alors, juste une petite précision par rapport à ce que dit Evelyne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, il y a l'homme qui, justement, érigeait des symboles phalliques pour montrer qu'il était le maître sur la terre et qu'il, en sa représentation, il dirigeait des choses. Mais il y avait aussi, justement, cette représentation de la femme, justement, qui était la déesse mère.
Tout à fait.
Qui, pour les anciens, représentait la naissance et donc le monde du vivant, de la vie, puisque ouais, celle qui est capable vie. De mettre la vie est capable de créer en même temps.
Absolument.
Donc il y a un mystère derrière ça aussi.
Tout à fait. Et à une certaine période, on tombe dans l'union sacrée, donc c'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'il faut un homme et une femme pour pouvoir donner la vie. Et non pas comme au tout début, c'était le matriarcat avec la femme qui était honorée pour cette femme qui va donner la graine de la vie et de ces futures générations qui vont se succéder pour former l'humanité. Mais ensuite, on tombe dans cette union sacrée, puisqu'il faut un homme pour pouvoir donner la vie et que la femme puisse porter cette semence et faire grandir les générations. Donc c'est magnifique, on tombe vraiment dans une conception où il y a une égalité de l'homme et de la femme, et ça c'est pour moi quelque chose qui représente quelque chose de magnifique et de magique.
Alors il nous reste 5 minutes d'émission, et puis après je vous dirai une petite chose pour vous faire comprendre quelque chose. Vas-y Evelyne.
Très bien. Donc, ce site est connu pour des rites de fertilité. D'ailleurs, l'impératrice Sei Mei aurait pratiqué en ce lieu et en divers rituels. Ces sortes de sièges de roches géants rappelant ceux de la forêt du fauteuil du diable de Rennes-les-Bains près de Rennes-le-Château et en divers sites sacrés du Périgord vert ouvrent l'entrée de sites sanctuaires religieux sacrés comme pour justement C'est un peu compliqué, ça aussi, c'est à découvrir dans un article que j'ai publié dans Génération Cité d'Or. Et moi, je les nomme des sièges énergétiques parce que ils sont disposés d'une telle manière qu'avant de rentrer dans les sites, on a l'impression qu'il faut s'asseoir sur ces sièges pour se nettoyer, se purifier, se recharger positivement avant d'avoir l'honneur d'aller sur le site sacré. C'est un peu ce qu'on pourrait y comprendre. C'est assez compliqué. Bon, après, chacun y voit et conçoit ce qu'il a envie de concevoir. Mais moi, c'est ce que j'ai découvert. Voilà, c'est mon interprétation personnelle. Donc après, à découvrir, là, je n'ai pas le temps de tout expliquer, c'est trop long. Au Japon, on découvre aussi des dolmens aux structures mégalithiques massives et immenses qui se nomment Nara. Je vous suggère de vous rapprocher des travaux des carnets de voyage de Franck Ferrandis sur ces monuments et la culture Jomon, qui est une culture d'exception. Ce sont les premiers habitants de cette terre, de cette île du Japon, et qui remonterait à des temps, on le citerait, entre moins 10 000, voire moins 13 000 jusqu'à moins 400 avant Jésus-Christ, et qui aurait livré des petites statuettes aussi avec des têtes particulières, un peu extraterrestres, un peu insectoïdes, et dont certaines légendes disaient qu'à certains moments, ces petites statuettes de pierre cuite, semaient la panique dans les villages. En fait, c'est très curieux. C'est vraiment une culture passionnante. Donc, à voir aussi les travaux de Franck Ferrandis, qui est passionnant également dans ce domaine. Donc, certaines statuettes arborent comme des lunettes et des casques sur leur tête, d'autres sont insectoïdes, d'autres sont vraiment très particulières. De nombreuses légendes sont rapportées sur ces petites statuettes particulières. Et le site également de Shikamori, comme ça se prononce, possède des cromlechs avec des pierres levées massives et rectangulaires disposées en cercle. Vous voyez, au Japon également, il y a eu le passage d'un peuple mégalithique disparu, bien sûr, inconnu et stupéfiant. Donc maintenant, nous allons partir vers l'Amérique du Nord pour découvrir les vestiges d'un très ancien peuplement qui aurait été découvert par des chercheurs en plongée sous-marine dans le fameux lac de Michigan. Eh bien oui, un cercle de pierre y serait englouti. Il y aurait des phénomènes paranormaux qui auraient été rapportés, de nombreuses observations d'ovnis, des disparitions de personnes rapportées, plusieurs personnes qui se promenaient aux alentours et autour de ce grand lac, le lac Michigan, auraient disparu et ne seraient jamais revenues. Très curieux. Folklore ou réalité, je vous laisse donc faire votre jugement. Ce site serait un des triangles mystérieux de la Terre, après les Bermudes, bien sûr, et le site de la Burle en France, mais également sur la plus grande île de ce lac, qui s'appelle Beaver Island, un cercle de pierres calendaire comme celui de Stonehenge, mais beaucoup plus petit, il serait construit depuis les temps brumeux de nos origines. Très intéressant parce que là, on voit que du côté d'Amérique du Nord également, il y a des vestiges laissés par des anciennes civilisations très antiques. Elle serait disposée suivant la course du soleil, de la lune, des étoiles, afin de créer une sorte de calendrier, de gnomon, d'horloge, et repérer les saisons, les fêtes religieuses et sacrées, mais aussi un mini-observatoire des astres, des constellations, des cycles lunaires, des éclipses, etc. Ce site n'est pas encore officiellement confirmé et étudié par les archéologues, ni classé monument historique comme nombre de pierres levées et autres sites oubliés un peu partout sur la Terre, parce que bien sûr, il y en a tellement qu'il n'arrive même plus à étudier toutes les merveilles qui se trouvent un peu partout. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Pour poursuivre, partons maintenant vers le sud de la Colombie, dans le département de la Hula, près du fleuve Rio Magdalena. Débarquez sur une pirogue imaginaire afin de vous extasier sur un site archéologique stupéfiant. Il s'agit du site de Saint-Augustin, où des statues anthropomorphes semblent garder, telles des sentinelles, l'entrée des tumulus et des dolmens perdus dans les dimensions temporelles. Ces statues anthropomorphes, avec des personnages sculptés dessus, des hommes, quoi, si vous voulez, gardent donc l'entrée de ces tumulus. C'est très curieux. Des statues monolithiques troglodytes et autres vestiges d'exception si similaires à nos sites sacrés ancestraux peuplent cette rive du fleuve au nom bien plus qu'interpellant puisqu'il s'appelle le Rio Magdalena et dont on retrouve Madeleine qui aurait été une des compagnes ou en tout cas une des disciples du Christ. Donc c'est un petit clin d'œil de la Colombie par rapport à l'intérêt de ce site. Encore une preuve que sur toute la Terre, à la même période, des hommes ont formé la ronde des connaissances et des savoirs similaires aux cultes et rites approchés, dictés par des bienfaiteurs visiteurs ou inspirés d'une même source. Peu importe pour moi, la magie de ces découvertes nous subjugue, bien au-delà des mots. Tout cela, c'est vraiment intrigant et c'est extraordinaire. C'est déjà, pour moi, quelque chose qui est bien plus interpellant que tout ce qu'on pourrait en conclure. Maintenant, partons en Inde. En Inde, il existe un pilier monolithe de fer qui se trouve dans le complexe. Alors, c'est compliqué à dire. Je vais vous l'épeler parce que Q, U, accent circonflexe, T, B, Minar, M, I, N, A, accent circonflexe, R. Dans la banlieue sud de Delhi, à New Delhi, il serait daté de 415 à 455. La particularité de ce monolithe, de ce pilier de fer, c'est qu'il était composé de fer à 99,72%, une grande technicité pour arriver à créer quelque chose comme ça. Il a la particularité de ne jamais s'oxyder. Des scientifiques de Kanpur l'ont analysé en 2002. Il serait recouvert d'une couche fine d'hydrogénophosphate de fer cristallin ou, plus facilement, du phosphate de fer, qui le rendrait imperméable et ne s'érode pas lors des intempéries. Ce sel de fer et de phosphate de sodium trouvé à l'état naturel dans l'environnement minéral est essentiel pour les plantes et les animaux. On le trouve partout. En complément alimentaire également pour l'homme, ce sel de fer est quelque chose de très très bénéfique. Il sert également aujourd'hui d'engrais naturel pour l'agriculture, pour lutter contre les limaces et les escargots de manière naturelle, pour les plantes d'ornement intérieur et dans nos jardins. C'est un engrais fabuleux. Et cette excellente alternative à tous les produits chimiques et toxiques nous aide aujourd'hui à lier l'essentiel. Oh là là, on arrive à la fin. Donc voilà, en tout cas, écoutez, je crois qu'il faudra une autre émission un peu plus tard parce que j'ai encore d'autres lieux exceptionnels. Donc cette métallurgie comme l'airain et l'auricalque sont des prouesses extraordinaires. Voilà, donc eh bien, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre intérêt envers ces recherches, envers ces moments partagés. Cette présentation est un petit tour d'horizon. Il y a encore d'autres sites choisis et pour leurs intérêts qui sont stupéfiants et qui sont très similaires à ceux que l'on découvre sur la plupart des continents à la même époque et en nos régions. Et ils sont aussi des vestiges sacrés bâtis par des peuples en migration, peut-être lors de déplacements en raison des règlements climatiques ou des nomades ayant laissé quelque peu par-ci par-là, là où ils sont passés, des partages de leur culture, leur conception religieuse, leur savoir et tout ce qu'ils auraient pu partager lors de ces pèlerinations ou voyages d'exploration. Je vous laisse en juger et faire vous-même vos propres conclusions sur les interrogations de nos origines, notre histoire et ce patrimoine interpellant. Voilà, nous irons explorer peut-être une prochaine émission d'autres lieux tels que également la Sardaigne avec la civilisation nuragique, les Açores qui livrent des vestiges extraordinaires, la cité étonnante de Cahotia en Illinois et bien d'autres. On y passerait des week-ends entiers, ça ne me dérangerait pas d'ailleurs. Voilà, en tout cas, je remercie à nouveau Patrice, à nouveau la radio O2 Radio de me permettre de vous faire voyager ainsi. Et sur une autre prochaine émission également, je vous partagerai des découvertes que j'ai faites sur les bêtes effroyables de l'histoire. La bête du Gévaudan, pour elle, fut-elle seule, à découvrir prochainement, amis auditeurs fidèles. Merci à vous tous et excellent week-end à vous tous et profitez du beau soleil et de ces beaux sites que vous pouvez aller découvrir dans notre région.
Merci Evelyne, merci. On est en retard. Oh là là, on a dépassé l'heure. Là, c'est. Je pense qu'on n'a pas le droit de donner de fessée aux femmes, mais peut-être qu'on va lui en donner une. Voilà, on est effectivement un peu en retard.
C'est la Saint-Valentin bientôt.
Voilà, on est un peu en retard. C'est pas grave. De toute façon, je sais que vous aimez cette émission. On va vous laisser avec le journal. Juste une petite chose. Je crois qu'il est très important que nous remettions les choses à leur place et que. Vous découvriez petit à petit avec Evelyne. Et avec moi, je ferai des émissions aussi et j'inviterai, je ferai venir Thierry Jamin un jour, qui est au Pérou et qui est explorateur là-bas, qui fait des recherches sur les sites sacrés. Je ferai venir des gens assez extraordinaires et Evelyne continuera à vous faire des belles émissions sur ses recherches personnelles. Et je crois qu'il est très important de comprendre d'où nous venons et pourquoi ces anciennes civilisations autrefois ont existé et dans quel but elles ont érigé tout ça. Merci à tous. Pour une prochaine émission, sachez que la prochaine émission, ce sera la semaine prochaine, ce sera dans les portes de la connaissance des pilotes de chasse qui viendront de la base de Cazaux, des pilotes de Rafale, des pilotes de Mirage, des pilotes d'Alpha Jet qui viendront vous parler de leur métier et ce sera un voyage fantastique dans les airs. Merci à tous et à la semaine prochaine.
May it be an evening star shines down upon you.
May it be Culture et patrimoine, une émission présentée par Evelyne Padrino. Rejoignez-nous dans un voyage au cœur des anciennes civilisations. De la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.